Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Merci Joël pour ces chants. Et je veux faire mienne cette dernière parole qui dit « Avec mon Dieu, tout ira bien ». Vous le croyez ? Oui. Encore faut-il avoir fait cette expérience que d'avoir accueilli Jésus dans sa vie, s'être repenti de ses péchés et être né de nouveau en lui par son esprit. Voilà, sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible. Évangile au chapitre 7 de l'évangile de Luc. Voilà, je ne vais pas être long ce soir. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire et je crois que ça vient du Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre, plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Amen à la parole de Dieu. Joël a dit, juste après le premier cantique, ce que Jésus veut, ce que Dieu veut, c'est changer notre cœur. Et c'est la vérité. Juste pour replacer le contexte de ce passage, juste auparavant, il y a eu le sermon sur la montagne, il y a eu la parabole sur les deux maisons. Jésus a guéri le serviteur d'un centenier. Et ce centenier va s'entendre dire de la part de Jésus, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi de la part d'un centenier romain. » Juste après, Jésus va ressusciter le fils d'une veuve. Et Jésus va encore témoigner, guérir beaucoup d'infirmes, des aveugles, des lépreux, des sourds. Et il annonce toujours cette bonne nouvelle aux pauvres. Et il va être amené à dire quelque chose de difficile à écouter pour des religieux de l'époque, c'est-à-dire les pharisiens et des docteurs de la loi. Il va leur dire, au verset 30 du chapitre 7, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul, c'est-à-dire par lui, par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Il est en train de dire que des religieux de l'époque, ceux qui sont chargés de conduire le peuple dans les voies de Dieu, eh ben ils vont annuler les promesses de Dieu envers le peuple à cause de leur conduite, à cause de ce qu'ils font. Néanmoins, il y a un pharisien qui s'appelle Simon, verset 36, qui va quand même prier Jésus de venir chez lui. Et je crois que là, il y a quelque chose pour nous d'intéressant à comprendre, c'est que Jésus va accepter cette invitation. Alors, peu importe qui nous sommes, de quelle condition nous sommes, notre travail, notre niveau social, etc. Si nous prions Jésus de venir peut-être nous éclairer, nous parler, Je crois que le Seigneur Jésus veut toujours se manifester à quelqu'un. Si quelqu'un cherche Dieu, il le trouve. Et c'est le temps, nous dit la parole de Dieu, c'est le temps favorable pour chercher Dieu encore, ce soir, dans ce temps. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes réunis dans ce lieu, ce soir. Ce n'est pas par un hasard que nous sommes retrouvés là. Je crois que le Seigneur conduit toutes choses. Et que si nous avons le cœur ouvert, Dieu pourra y déposer un bon dépôt. Voilà le contexte qui est là, qui entoure ce texte. Donc le pharisien Simon invite Jésus chez lui. Il faut nous arrêter un petit peu sur ce pharisien, parce qu'au cours du développement de ce texte, nous allons voir que ce qui était une bonne disposition de cœur au départ va s'avérer ensuite, par la suite du développement, amener à la lumière un comportement, enfin l'état de cœur dans lequel était cet homme. Parce que ça va être révélé au cours du récit. Et donc il invite Jésus chez lui. Combien, à notre époque, invite Jésus chez eux? Il n'y a pas beaucoup? Je ne sais pas. En tout cas, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le cœur des hommes et des femmes. Mais cet homme, c'était un pharisien qui était bercé dans la loi mosaïque, qui connaissait les traditions orales, qui savait ce que c'était véritablement la loi de Dieu. Et peut-être qu'il avait entendu Jésus parler, certainement même pour l'inviter chez lui. Il avait certainement entendu parler Jésus, les paroles que Jésus avait annoncées. Et il a quand même invité Jésus chez lui. Et ça nous parle de nos motivations. On peut vouloir inviter Jésus parce que Jésus, c'est peut-être ce qu'il pensait, c'était un prophète, quelqu'un qui connaissait Dieu et qui avait quelque chose peut-être à lui enseigner. Peut-être que Jésus, il avait des choses à lui apprendre, qu'il allait connaître plus, je ne sais pas ce qui était là dans son cœur, pourquoi il l'a invité au départ. Et nous, en tout cas je parle pour moi, on peut parfois inviter Dieu, on a pu parfois inviter Dieu à venir nous éclairer pour un motif personnel, quelque chose d'un intérêt personnel, etc. Et ça va s'éclairer, ce que je dis au fur et à mesure du récit. Et nous voyons qu'il y a une femme pécheresse qui va être là, qui va braver, le fait de la honte d'aller dans une maison où elle n'était pas invitée. Elle va braver cette peur-là au verset 37. Elle va venir dans cette maison d'un pharisien. À l'époque, les pharisiens ne se mélangeaient pas avec le peuple. Ils se voyaient comme à part des autres. Et cette femme, elle va venir dans sa maison. Elle va venir, peut-être en silence, elle va se mettre... Vous voyez la scène? Je ne vais pas vous la mimer. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre derrière Jésus. Jésus ne la voit pas. Elle va se mettre derrière lui, elle va se mettre à ses pieds. Elle va pleurer. Elle va mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes, etc. etc. Et Simon voit le déroulement de ce fait. Il le voit, il le constate, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui jaillit dans son cœur. Mais si Jésus est un prophète, il devrait savoir que cette femme, c'est une pécheresse. Il devrait le savoir, qu'il ne faut pas se mélanger avec elle. Il devrait savoir que c'est pas comme ça que Dieu bénit, ce n'est pas de cette façon que Dieu sauve, ce n'est pas de cette façon que Dieu se manifeste, etc., etc. Donc, tout un schéma, toute une façon de penser qui était logique avec son époque, avec ce qu'il était, avec le fait qu'il était pharisien. Mais voilà. Quand on invite le Seigneur Jésus dans notre vie, au moyen, on ne va pas être mystique, au moyen de sa parole d'abord, en lisant cette parole, en la méditant, en cherchant. J'ai le souvenir d'un frère et d'une sœur qui avaient été amenés à se préoccuper de leur salut juste en lisant l'évangile de Jean, sans avoir contact avec un pasteur, etc. Ils avaient commencé par lire l'évangile de Jean. Et c'est là que leur cœur a commencé à travailler. Et nous voulons chercher Dieu, et Dieu nous a laissé sa parole, la Bible. 66 livres qui sont là, et qui nous révèle qui nous sommes réellement face à Dieu. Et donc, voilà, nous invitons Jésus, et Jésus est extraordinaire. Il nous a laissé une parole qui est capable de nous éclairer, qui est capable d'amener à la lumière ce qui est caché, et pour non pas nous avilir, nous humilier, mais pour nous montrer qui nous sommes vraiment, afin de réaliser dans quel état nous sommes, et pouvoir crier à l'aide. Et cet homme, il va voir, alors il pense en lui-même, si Jésus était cette personne, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Jésus prend la parole. Alors Jésus va peut-être prendre la parole pour donner un enseignement sur cette femme pécheresse, etc. Alors il dit, oui, maître, parle. Maître. Il l'appelle Jésus maître. Il reconnaît comme une autorité dans cette personne qu'est Jésus. Et il lui dit de parler, il écoute. Et voilà qu'en parlant, il va se reconnaître certainement dans le récit. Deux débiteurs, l'un qui devait une dette de plus d'une année, presque 2 années de salaire, l'autre presque 2 mois de salaire. Et puis Jésus lui dit, mais qui, pardon, verset 42, lequel l'aima le plus ? Lequel l'aima le plus ? Et il va bien répondre. Et je veux croire qu'au travers de cette réponse de Simon, quand Simon dit au verset 44, pardon, au verset 43, Jésus va lui dire « Oui, tu as bien jugé. » Je veux croire que nous pouvons nous reconnaître dans cette parole. Nous sommes confrontés à la parole de Dieu, nous avons lu ce récit, et des choses peuvent remonter à la surface. La parole de Dieu agit comme une lumière qui éclaire nos ténèbres, et nous voyons que nous n'avons pas une bonne conscience devant Dieu, qu'il y a là des péchés qui sont là sur notre vie. Et nous sommes libres d'accepter cette lumière ou de la refuser. Et Simon, pour sa part, en répondant, il se juge lui-même. Il réalise que celui à qui l'on a le plus remis sa dette aime le plus. Et quelque part, il réalise que la dette à qui on a le remis le plus, eh bien, c'est cette pécheresse. Et que lui est peut-être l'autre débiteur. Et je disais que cela nous amène à réaliser que devant la parole de Dieu, je parle pour ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas encore, pour tous, la parole a cette capacité à être un miroir pour nos vies. Un miroir qui nous révèle qui nous sommes vraiment. Et si nous acceptons cette parole entière, si nous l'acceptons, qu'elle vient véritablement faire son œuvre dans notre vie, si nous l'acceptons déjà, cette parole, elle vient, elle met en lumière des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et nous sommes libres de demander pardon à Dieu ou pas, nous sommes libres d'accepter que cette parole vienne pleinement, qu'elle vienne de plus en plus, qu'elle agisse en profondeur dans notre vie, qu'elle nous libère. Parce que cette femme, elle a été aussi au contact de Jésus. L'homme, Simon, a été au contact de Jésus pour l'inviter. Mais cette femme a fait une expérience aussi avec Jésus et elle est revenue vers lui. Et cette parole de Jésus qu'elle a reçue, je ne sais pas laquelle c'était, peut-être qu'elle avait été guérie, mais elle avait été touchée par la sainteté de Jésus. Elle était revenue vers lui. Et cette parole, si elle trouve un cœur qui est réceptif, un cœur qui se laisse éclairer, un cœur qui se laisse, comment dire, qui n'esquive pas la vérité que donne Dieu. Si cette parole, elle trouve cela dans notre cœur, elle va pouvoir agir, elle va pouvoir travailler, elle va pouvoir porter du fruit et nous amener à vivre une expérience extraordinaire avec Dieu. Mais si cette parole, elle est retenue, si elle ne peut pas agir en profondeur, si elle ne peut pas apporter toute sa lumière, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va s'endurcir. On va endurcir son cœur. Et certainement que Simon a réalisé qu'il n'avait pas d'amour dans son cœur. Un manque d'amour profond. Un manque d'amour. Et nous savons que c'était le commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain. Combien nous manquons d'amour ? Combien, je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, parfois on se réalise que même il manque de l'amour pour nos propres enfants. On se dit, non, alors, comprenez-moi bien, j'aime mes enfants, mais dans certaines situations, on se dit, mais j'ai besoin vraiment de les aimer profondément. Et cet amour que le cœur humain ne peut pas donner, cet amour qui ne vient pas du cœur humain, Cet amour qui découle d'en haut, cet amour qui vient du Sauveur, qui vient de Dieu lui-même, qui s'est manifesté dans le Seigneur Jésus. Combien le poids du péché est lourd, le poids de la faute. Se voir comme celui qui était dans la société, celui qui était, comment dire, reconnu pour sa piété, et puis tout d'un coup, rien que par une parole de Jésus, une petite parabole, réaliser la misère dans laquelle on est à cause de cet amour qui n'est pas là dans le cœur, de cette froideur. On réalise chez Simon une grande froideur, une grande sécheresse finalement. Il manque l'amour de Dieu. C'est beau de connaître les commandements de Dieu, c'est beau de pouvoir les mettre en pratique, mais combien il est important de connaître celui qui a créé la loi, celui qui a donné cette loi. Ce n'est pas pour vous, mais dans le monde, il y a différentes façons d'accueillir quelqu'un qui est élevé en dignité. Exemple, je prends le cas dans le travail. On peut recevoir un grand chef, un grand cadeau sup. Il y a différentes façons de le recevoir. Alors, dans mon travail, il y a une certaine façon. Bon, alors, on peut le recevoir d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'élevé en dignité. On sait qu'on doit l'accueillir d'une certaine façon. On va le faire. On n'y met pas tout son cœur, mais on le fait parce que c'est quelqu'un d'élevé en dignité. Vous êtes d'accord avec moi? On fait le minimum. Et puis, on se montre son bonjour. Et une autre façon d'accueillir. On peut accueillir cette personne comme ayant une certaine expérience, un acquis, quelqu'un qui maîtrise ces sujets, et puis dire, mais voilà, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir partager une expérience, d'avoir ne serait-ce qu'une parole, je ne sais pas, pour ceux qui sont un peu intéressés par les nouvelles technologies. Je me rappelle quand il y avait des conférences du patron d'Apple, c'était un peu comme un gourou, les gens étaient là, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Donc il y a une certaine façon d'accueillir les gens qui sont élevés en dignité. Et puis, il y a d'autres façons aussi. On peut essayer d'accueillir quelqu'un pour se dire, ah, moi j'ai accueilli chez moi quelqu'un qui était élevé en dignité, etc. Et puis, il y a une autre façon aussi, on peut accueillir une personne qui est élevée en dignité et se dire, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, différentes façons d'accueillir, mais il y a un minimum. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a un minimum? Et on voit dans ce récit que Simon, même le minimum, il ne l'a pas fait pour Jésus. Il ne lui a pas lavé les pieds. Il n'y a pas baiser, c'est-à-dire le reconnaître comme un frère juif. Il n'a même pas donné du parfum pour, comment dire, vous savez, à l'époque, c'était les traditions. Et Jésus va lui dire, mais cette femme, elle l'a fait, avec ses propres larmes, avec ce qu'elle avait de plus précieux. L'albâtre, c'était cette pierre blanche quoi, avec laquelle on fait des sculptures, etc. C'est quelque chose de précieux. Elle avait apporté ce qu'elle avait de meilleur. Et ce qu'elle avait de meilleur, elle a réalisé que ce n'était même pas digne. Enfin, c'était juste digne pour les pieds de Jésus, même pas tout son être. Et que Jésus ne pouvait même pas porter des regards sur elle. Elle était toujours là, pendant tout le récit, elle est toujours là derrière Jésus. Peu importe si elle ne me voit pas, mais je veux répondre. Il m'a fait du bien. Il m'a délivré. Parce que pour que cette femme vienne dans la maison d'un pharisien comme ça, il a fallu vraiment une expérience extraordinaire. Et elle ne connaissait peut-être pas la loi de façon extraordinaire. Mais telle qu'elle était, avec ce qu'elle avait reçu de Dieu, elle est revenue vers Jésus et lui a donné le meilleur. Et tout d'un coup, dans le récit, il y a deux personnes qui sont là. Simon et la pécheresse. Deux personnes qui nous parlent de notre état. Soit nous avons vécu quelque chose avec Dieu et nous avons été pardonnés de nos péchés, soit nous sommes toujours dans l'autre camp. Il n'y a pas différentes manières, il n'y a pas deux voies, il n'y a pas différentes voies, il y a deux voies qui mènent, soit à Dieu, soit à la perdition. Soit nous restons dans nos péchés, soit nous restons sous le jugement, et nous avons vu que le jugement, eh bien, il vient de notre propre bouche, confrontés à la parole de Dieu, soit nous saisissons la grâce de Dieu. Et cette femme, elle va choisir la grâce de Dieu. Sans doute avait-elle réalisé que son péché était trop lourd. Nous l'avons chanté. Un fardeau trop lourd. Et nous voyons là que il y a le péché est comme quelque chose qui est là, qui nous enserre, qui nous rend esclaves. Comment changer de cœur? Comment changer de vie? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en payant. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout d'un coup en allant à la banque et dire « voilà, je voudrais une nouvelle vie » ou aller à l'hôpital et dire « je voudrais changer de cœur ». Ce n'est pas possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Encore faut-il, quand cette parole est venue dans le cœur, qu'elle a éclairé un cœur, qu'elle nous donne de réaliser dans quel état nous sommes, encore faut-il manifester ce minimum de foi pour dire « Dieu, aide-moi. Aie pitié de moi, Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui connais toutes choses, pardonne-moi. Ma faute, elle est trop lourde. Ma dette, elle est trop lourde. » Car au final, au travers de ce texte, on réalise que les deux personnes avaient une dette. Le pharisien aussi, il avait une dette. Tous, nous avons une dette. Tous ont péché, nous dit la parole de Dieu, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mais Dieu ne nous laisse pas, Jésus ne nous laisse pas les bras ballants face à notre péché. Il agit. Et comment il agit? Quand nous manifestons la foi, eh bien, il prend notre défense. Cette femme, en aucune manière, elle a pu élever la voix devant ce pharisien. Aucune manière, elle a dû se défendre. C'est Jésus qui l'a défendue. C'est Jésus qui a pris position pour elle parce qu'elle avait pris position pour Dieu. Et c'est notre part ce soir de prendre position face à la parole de Dieu. Oui, au travers des paroles un peu bancales de celui qui parle ce soir, je réalise que mon cœur, je ne peux pas le changer. J'aurais beau faire des efforts, tel ce pharisien qui en faisait, croyez-moi, il en faisait des efforts pour être agréable à Dieu, mais ce n'est pas ça qui nous amène à avoir de l'amour dans le cœur. Et on ne peut pas aimer sans avoir reçu le pardon de nos péchés. Ce n'est pas possible, ce sera un amour, comment dire, Dieu fait grâce, un amour humain, un amour sentimental, mais cet amour qui nous amène à vivre, peu importe les circonstances, peu importe les gens que nous voyons, peu importe ce que... Cette femme, elle ne craint plus rien. Elle affronte les autres, elle a été une pécheresse, mais elle est pardonnée. Et nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, ce Dieu d'amour. Mais ce Dieu qui ne nous cache pas la vérité. Et cette vérité, elle est dure à entendre. Elle était certainement dure à entendre pour cet homme. Oui, tu es cet homme-là, certainement. Nous ne savons pas comment la parole a réalisé dans son cœur, mais nous réalisons comment elle a éclaté dans notre cœur. Oui, tu es cette femme-là. Oui, tu es cet homme-là. Et c'est le souvenir de ce roi David. Nous l'avons chanté. Oui, tu es cet homme-là, lui a dit Nathan. Oui, je le suis. Il aurait pu dire au prophète, c'est entre nous. Alors, toi, je vais te supprimer. Non, mais il a reconnu au travers de la parole du prophète Nathan que c'était Dieu qui lui parlait. Et il s'est soumis. Alors ce soir, qui réalise? Celui qui connaît Dieu ou pas? Parce que nous pouvons marcher avec Dieu et avoir besoin de se repentir. Besoin de changer de conduite. Besoin que Dieu renouvelle un cœur pur en nous. Qui veut saisir une vie nouvelle? Qui veut saisir la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Qui réalise son besoin et ne veut pas faire comme ce Simon? Enfin, on n'entend plus parler lui, mais en tout cas, peut-être qu'il est resté dans cet état-là, avec cette parole. Mais c'est cette femme qui va entendre Jésus lui dire « Va, ta foi t'a sauvé, tes péchés t'en sont pardonnés ». Qui veut entendre ça? Qui veut le réaliser? C'est avoir cette assurance, oui, parce que c'est une assurance, une pleine conviction quand on reçoit le pardon de ses péchés. Eh bien, nous savons, la Bible dit que c'est comme le vent, on ne sait pas comment il souffle, dans quel sens il va, etc. Mais on sait qu'il est là. Et quand on a reçu le pardon de ses péchés, on le sait, on sait qu'on est pardonné. On sait à qui on appartient. On sait en quel esprit désormais domine en nous et sur nous. Alors, si nous voulons faire cette expérience, demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Laissons cette lumière, laissons la lumière de sa parole venir éclairer. Oui, Seigneur, il y en a tellement, Seigneur, alors je suis pécheur. pardonne-moi. Pardonne-moi et donne-moi de mettre en ordre ma vie. Donne-moi de véritablement changer de conduite. Ce que j'ai mal fait, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir le changer. Et Dieu le fera. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que c'est le temps. Viendra un temps où ça ne sera plus possible. Viendra un temps où ça ne sera plus possible. Et le temps qui nous appartient pour répondre à l'appel de Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, mais oui, mais Jésus, ce n'est pas Dieu. Jésus, c'était un homme extraordinaire, mais ce n'est pas Dieu. Jésus, il pardonne les péchés. Jésus, il guérit les malades. Jésus voit quelqu'un qui n'était pas encore son disciple sous un figuier, sous un arbre, et il va lui dire « Mais je t'ai vu quand tu étais sous cet arbre. » Jésus, il connaît la pensée du cœur de Simon. Jésus, il ressuscite les morts. Jésus est ressuscité le troisième jour. Jésus est Dieu. Et ce soir, vous vous adressez à un Dieu vivant. Un Dieu qui n'est pas resté au tombeau. Bien qu'on ait dit des choses, on en dise encore sur Jésus, Jésus ce soir nous appelle à faire la paix avec lui, à reconnaître notre état et à faire la paix avec lui. Et il nous montrera comment agir par la suite. Mais ne brûlons pas les étapes. Comment je vais faire ci, comment je vais faire ça? Acceptons déjà de faire la paix avec lui. Demandons-lui pardon. Et les choses vont s'éclairer. Les choses vont être amenées à, comment dire, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous montrera ce qu'on aura à faire. Mais d'abord, entrons dans le royaume de Dieu. Il s'approche, ce royaume de Dieu, de nous ce soir. Amen. J'aimerais terminer, s'il vous plaît, en lisant un psaume. Il nous reste quelques minutes. Le psaume 51, c'est ce qu'a vécu le roi David quand Nathan est venu vers lui et il a tenu à l'écrire. Je crois d'abord parce qu'il ne voulait pas oublier. C'était tellement extraordinaire qu'il ne m'a pas voulu oublier. Et puis il voulait que cela serve de témoignage, certainement, à beaucoup. En tout cas, il le dira. Je veux que cette vérité elle soit au fond de mon cœur. Et c'est ce dont nous avons besoin. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à tes yeux, à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Quand le cœur est changé, quand le cœur est transformé, quand nous naissons de nouveau à cette vie nouvelle, cette vie d'en haut, avec l'Esprit de Dieu, alors oui, nous pouvons offrir des choses agréables à Dieu. En attendant, entrons dans l'appel de Dieu pour notre vie.